Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 73. Nous allons lire ce magnifique psaume d'Asaph, le psaume 73. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est repelé. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment. Et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé, et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est donc la lecture de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu, que notre Dieu bénisse sa parole. Chers amis, chers frères et sœurs, très certainement qu'une des grandes difficultés pour tout être humain, et en particulier pour les chrétiens, parce que sensibles à la justice, c'est de constater de tout temps, peut-être particulièrement aujourd'hui, la réussite et la prospérité particulière des méchants, de ceux qui sont injustes, de ceux qui ne craignent pas Dieu, de ceux qui se plaisent à offenser, à mépriser les autres, leurs contemporains, à faire preuve de condescendance, de suffisance, d'arrogance. Cette souffrance est difficile de voir ces hommes, ces femmes s'accroître, multiplier, grandir, s'enrichir, devenir célèbres, alors même que l'on essaie de vivre fidèlement selon la parole de Dieu, et que l'on constate, jour après jour, eh bien, que l'on a à souffrir de différentes façons, alors même que l'on aspire, l'on soupire après la justice. Et ce délicat problème de la prospérité des méchants, alors que le juste souffre, eh bien, se retrouve bien des fois dans la parole de Dieu. C'est ainsi que le livre de Job, ainsi que celui du prophète Jérémie, s'interrogent à ce propos, et je vous citerai donc ces deux passages de ces livres. Tout d'abord dans le livre de Job. Job dit ceci, « Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent est un objet de raillerie. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. » Quant au prophète Jérémie, il écrit ceci, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. » Voilà donc deux passages tirés de la parole de Dieu et qui s'interrogent donc et qui interrogent Dieu quant à cette prospérité des méchants et la souffrance du juste. Et comme vous l'avez compris, dans ce psaume 73, c'est exactement le même sujet, le même thème. Asaph est tellement ébranlé par cette apparente injustice qu'il en vient presque à douter de Dieu. Et il s'en faut même d'un rien, comme il l'écrit lui-même, pour qu'il ne tombe dans l'incrédulité, puisqu'il dit ceci, « Toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Voilà ce que furent les sentiments, les pensées du cœur d'Asaph. Et ce n'est finalement, comme nous l'avons lu, et nous allons le revoir dans quelques instants, ce n'est finalement que lorsqu'il entre dans la sainte présence de Dieu, qu'Asaph peut enfin reconnaître son erreur. Il comprend, à ce moment-là, dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'un homme peut tout à fait jouir de grands biens, peut être célèbre, peut avoir un réel succès dans tout ce qu'il entreprend, peut donner libre cours à toutes ses passions, sans toutefois être pleinement heureux. Et surtout, ce qu'Asaph comprend, c'est que s'il peut y avoir pour le méchant un temps d'apparente prospérité, eh bien, celle-ci prendra de toute façon inexorablement fin un jour. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu, tout ce qu'Asaph comprend dans ce psaume et qu'il nous présente. Il comprend enfin, il comprend surtout, au cours du cheminement de ce psaume, que Dieu est bon pour son peuple. Il comprend que malgré les circonstances qui semblent parfois défavorables dans nos vies de chrétiens, eh bien Dieu ne rompt pas l'alliance qu'il a passée avec nous en Jésus-Christ. L'Éternel ne trahit jamais la confiance que ses enfants mettent en lui. Et c'est ainsi que qu'Asaph l'exprime. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et c'est ainsi donc qu'à la fin de ce psaume, Asaph ressort victorieux de cette épreuve du doute par laquelle il est passé, de cette incompréhension, de ce sentiment d'injustice qui l'habitait et finalement qui l'ont poussé presque jusqu'à tomber et à abandonner la foi, à finalement apostasier. Et à la fin de ce psaume, donc ressortant victorieux de cette épreuve du doute, nous le voyons affermi, nous le voyons éclairé, nous le voyons consacré à nouveau à l'Éternel, ou se consacrer à nouveau à l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, considérons maintenant ce psaume 73, et les différentes étapes de la crise par laquelle Asaph est passé, et qui est certainement cette crise à l'image de bien des crises que nous avons connues et que nous connaîtrons encore dans notre vie chrétienne. Le titre de ma prédication est celui-ci, « La victoire sur le doute ». Et nous aurons deux grands points dans cette prédication. Tout d'abord, la vie des impies et la vie des justes. Et ensuite, deuxième point, la destinée des impies et la destinée des justes. Commençons donc par, dans les versets 2 à 16, par la vie des impies et la vie des justes. Et dans cette première partie, de façon très très claire, Asaph oppose l'apparente, et je dis bien l'apparente vie heureuse des impies, à la vie malheureuse du juste. Alors commençons par cette apparente vie impie ou vie heureuse des impies. Alors il est intéressant de savoir que le sens original des mots insensé et méchant, qui sont ici rapportés au verset 3 pour parler des impies, eh bien décrivent de façon assez précise les personnes dont parle Asaph. Et on pourrait traduire ces mots insensés et méchants par les termes suivants également. On pourrait parler d'arrogants, on pourrait parler de gens suffisants, on pourrait également parler de vantards, mais aussi de personnes violentes et de fraudeurs. Alors voilà donc, chers frères et sœurs, chers amis, des hommes, des femmes, qui se persuadent d'être supérieurs. Non seulement supérieurs à leur prochain, mais aussi supérieurs à Dieu. Ils dominent et ils briment tous ceux qui les entourent, sans s'inquiéter, bien entendu, en quoi que ce soit de la misère et du désespoir qu'ils répandent autour d'eux. Dans les versets 4 à 6, et selon ce principe, qu'il y a souvent un lien entre l'état intérieur du cœur d'une personne et le visage que l'on peut voir tous les jours de cette personne, eh bien Asaph continue en détaillant de façon très très précise non seulement l'être intérieur de ces hommes et de ces femmes, certainement de ces hommes en premier lieu, mais aussi leur apparence physique. Alors que dit-il? Ou que nous apprend-il? Eh bien, il nous apprend tout d'abord, à propos de ces hommes, qu'ils semblent, étonnamment, éviter toutes les maladies, toutes les souffrances, tous les handicaps, toutes les limitations physiques qui frappent habituellement le commun des mortels. Et il continue en montrant qu'ils semblent non seulement, comme je viens de le dire, en pleine forme, en possession de tous leurs moyens, mais qu'ils sont encore joufflus, qu'ils sont également bronzés, qu'ils aiment la vie, qu'ils font bonne chair, n'est-ce pas ? Et finalement, que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Voilà l'impression du psalmiste. Leur corps est chargé d'embonpoint, écrit-il. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Asaph continue encore la description de ces personnes, en montrant non seulement l'orgueil qui est le leur et qui est comme une sorte d'atour qui les revêt, mais que la violence fait également corps avec eux. Cette violence est un peu comme un vêtement qui recouvrirait leur corps tout entier et dont ils ne se défraient plus jamais, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Et puis, pour continuer cette description et pour être on ne peut plus précis dans celle-ci, après avoir dépeint leur être moral, après avoir parlé de leur être physique, eh bien, Asaph continue dans les versets 8 et 9 en nous rapportant leurs propos. Et ceux-ci sont caractérisés par quatre traits. Alors écoutez les traits des propos de ces hommes. Tout d'abord, ils raillent et parlent d'opprimés. Ensuite, il nous dit qu'ils parlent haut. Et puis, que leur langue s'élève jusqu'au ciel. Et enfin, que leur langue se promène sur la terre. Ils raillent et parlent d'opprimés. Persuadés d'être intelligents, plus intelligents que la moyenne, certains d'être les seuls à connaître la vérité, eh bien voilà que ces hommes ricanent, se moquent, et finalement veulent détruire tous ceux qui ne partagent pas leur avis ou leurs convictions, tous ceux qui marchent différemment d'eux et qui ont une vie différente de la leur, et en particulier, bien entendu, les justes, ceux qui craignent l'Éternel. Voilà des hommes donc qui raillent, qui parlent d'opprimés, voilà des hommes qui parlent haut, ils sont tellement sûrs de leur bon droit, tellement certains de leur intelligence, de leur supériorité, que où qu'ils se trouvent, à la maison, dans un lieu public, eh bien on les entend parler fort, exposant et imposant à tous leur folie, la criant sur les toits. Leur langue, écrit encore Asaph, s'élève jusqu'au ciel ou se promène sur la terre. Voilà des hommes qui, ne respectant ni Dieu, ni leurs contemporains, bravent par leurs propos la souveraineté de l'Éternel, sa justice divine, et dans le même temps, leurs calomnies, leurs ragots, leurs insultes, leurs mensonges, leurs vantardises et les perversions qui sont les leurs se répandent sur tout ce qui existe ici. Pour ces hommes, rien au ciel ni sur la terre n'est trop élevé ou trop bas pour échapper à leurs critiques. Mais le pire de tout, pour Asaph dans ce psaume, c'est que la souillure et la perversion de ces hommes se répandent sur tout le peuple d'Israël. Sur tout ce peuple qui les regarde et qui les écoute béatement en ouvrant une grande bouche, tout étonné. Et surtout ébloui de ces hommes, de leur pseudo-réussite, de leur soi-disant intelligence et sagesse. Et c'est ainsi que Asaph, dans une autre traduction, écrit ceci: « Ainsi le peuple se détourne vers la source d'une telle abondance. » Israël, qui devrait se sanctifier en renonçant à la vie impie et méchant, à la vie mondaine, afin d'être vraiment un peuple saint pour l'Éternel, un peuple à part, qui a été mis à part par l'Éternel et qui devrait vivre différemment, eh bien ce peuple, qui devrait donc vivre différemment du monde et des pays alentours, se laisse ainsi follement séduire par ces hommes, se laisse entraîner par la folie de leur corruption et retombe dans les multiples pratiques corrompues qu'il a connues autrefois lorsqu'il abandonnait l'Éternel. Et pour couronner le tout, au verset 11, Asaph nous apprend que ces méchants et ce peuple qui les suit donc stupidement, sans discernement, l'ensemble de ce peuple finalement se rassure et s'encourage dans sa folie en proclamant que Dieu est tellement éloigné dans le ciel qu'il ne sait pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas leurs propos et leurs comportements iniques. Comment Dieu saurait-il, écrit ainsi le psalmiste, mais comment le Très-Haut connaîtrait-il? Et enfin, Asaph, découragé, conclut au verset 12 l'ensemble de cette description détaillée des méchants et du peuple finalement qui s'abandonne à la folie de ces hommes. Asaph, découragé, résigné devant une telle évidence, conclut ainsi: ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et devant un tel constat, on lit au verset 3, en revenant un tout petit peu en arrière, que finalement il s'en est fallu de peu, je vous le disais tout à l'heure en introduction, il s'en est fallu de peu pour qu'Asaph ne tombe à son tour emporté par l'esprit mondain dans lequel une grande partie d'Israël s'est laissée entraîner. Il s'en est fallu d'un rien pour que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Chers frères et sœurs, force est de constater dans cette description que nous côtoyons régulièrement, si ce n'est journellement, directement, ce genre de personnes. Que ce soit par le biais de la presse, des médias, que ce soit même dans le monde du travail, peut-être de votre famille, dans le monde des affaires. On a même l'impression qu'ils se multiplient ces derniers temps. Voilà des personnes à qui tout semble réussir, intellectuellement, professionnellement, sentimentalement, physiquement, financièrement, tout ce que vous voulez. Elles sont souvent séduisantes, elles savent parler, elles sont sûres d'elles, elles sont arrogantes, elles en imposent aux autres, à tous les niveaux de la vie, par différents aspects de leur personnalité. Elles semblent et elles affirment n'avoir aucun besoin de Dieu, ni des hommes, bien entendu, puisque quoi qu'elles fassent, tout leur réussit. Et mes amis, au contact de ces personnes, quelqu'un de mal affermi, et peut-être même un chrétien qui passerait par un temps d'épreuve et donc un temps de doute, pourrait facilement être désarçonné, pourrait facilement être séduit, être emporté, tombé dans le piège de leur portée en vie, et de suivre leur voie tortueuse, de s'abandonner finalement au monde, et de rejeter la foi en apostasiant. Oui, voilà des tentations qui arrivent dans la vie chrétienne. Il peut en effet sembler, lorsque l'on rencontre de telles personnes, ou lorsqu'on les écoute, qu'elles ont, elles, compris la vie, le vrai sens des choses, et que finalement, l'on s'est peut-être, nous, trompés. Que l'on a peut-être pris un chemin de traverse qui ne nous conduira nulle part. Et c'est alors, mes amis, qu'à l'instar d'Asaph, lorsque l'on rencontre de telles personnes, lorsqu'elles nous séduisent, c'est ainsi que les doutes à propos de Dieu arrivent. Insidieusement, au départ, que l'insatisfaction fait place, ou le mécontentement fait place au contentement. Ça, c'est un piège terrible de la vie chrétienne, le mécontentement, l'insatisfaction. Nous sommes dans un monde mécontent, insatisfait. C'est alors que l'aigreur va remplacer la joie en Dieu, qui devrait exister, quelles que soient les circonstances. Chers frères et sœurs, je ne saurais trop vous encourager, et nous encourager ce matin, à ne pas nous laisser séduire, à l'instar d'Israël, par de telles personnes, à ne pas nous laisser follement troublés ou peut-être flattés, car ce sont souvent des flatteurs, des séducteurs, des manipulateurs, à ne pas nous laisser tromper ou détourner par la séduction de ces pseudo-sirènes du monde. Mais à l'instar, et si je peux me permettre cet exemple de Joseph, lorsque la femme de Potiphar couchait avec lui, à l'instar de Joseph, fuir. Et la fuite est une vertu dans ces cas-là. On pense souvent que la fuite n'en est pas une, mais dans ce cas précis, elle en est une. Fuir, éteindre la radio, fermer le journal, laisser de côté ce genre de personnes. Sans bravade, mais fuir. Et résister, ferme en la foi. Tenir. Voilà la vie des impies, des incrédules, de ceux qui rejettent Dieu. Et Asaph continue sa description en parlant maintenant de la vie malheureuse qui était la sienne et qui, finalement, en la comparant à la vie heureuse des impies, l'a conduit justement presque à cette extrémité d'abandonner la foi. Alors voyons cette vie malheureuse du juste. Contrairement à ces hommes dont nous venons de parler, eh bien Asaph s'est quant à lui toujours efforcé de plaire à l'Éternel, son Dieu. Comment ? En purifiant ses mains, c'est-à-dire en adaptant du mieux qu'il pouvait toute sa conduite, dans tous les domaines de sa vie. Ses paroles, ses pensées, ses actes, avec l'aide du Seigneur, il essayait d'obéir journellement, à tout moment, à la loi de Dieu. Quel profit en a-t-il retiré ? Eh bien, selon lui, dans la première moitié de ce psaume, absolument aucun. Tous les efforts qu'il a fournis jusque-là pour vivre une vie sainte ne semblent, dans cette partie du psaume, ne lui avoir finalement apporté aucune preuve de l'approbation divine. Le ciel était des reins. Et voilà pourquoi il s'interroge donc ainsi. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et il lui semble même que chaque jour lui apporte son lot quotidien de nouveaux soucis. Vous connaissez certainement les uns et les autres cela. On a l'impression que l'on ne fait que cumuler les problèmes un jour après l'autre. Alors même que les impies restent impunis, alors même qu'ils s'engraissent, qu'ils se repaissent des fruits de leur convoitise et de leur perversion, lui récolte jour après jour un lot de châtiments injustes. « Chaque jour je suis frappé, écrit-il, tous les matins mon châtiment est là. » Et de ce fait, et je reviens là-dessus, les réflexions les plus amères naissent dans son cœur à l'égard de Dieu, à l'égard de la loi de Dieu. À quoi sert donc de faire le bien pour en être récompensé de la sorte? Mais à quoi sert-il d'honorer Dieu si finalement il nous traite plus mal que ceux qui le déshonorent? Ainsi, la jalousie à l'égard des injustes et l'incompréhension des peuples de Dieu le conduisent à un sentiment d'aigreur et de doute vis-à-vis de l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, que ce témoignage d'Asaph soit pour nous ce matin un solennel avertissement. Un solennel avertissement. Asaph est si proche de nous. Dès lors que l'on perd Dieu de vue dans sa vie, dès lors que l'on se fixe sur la force ou la pseudo-force ou les diverses séductions de ce monde et que l'on compare celles-ci, les richesses de ce monde, et que l'on compare celles-ci à nos souffrances, à nos renoncements, eh bien l'aigreur prend rapidement le pas sur la paix que nous avions jusque-là avec Dieu. Et cette paix donc s'enfuit. Mes amis, dès lors que le monde commence à prendre trop de place dans notre vie, dès lors que toutes ces séductions nous envahissent et nous cachent l'Éternel, la paix de l'Éternel que l'on avait avec l'Éternel s'enfuit et l'on est proche de la chute. Mais relevons toutefois ceci à propos d'Asaf, qui est très intéressant. C'est que malgré son amertume qui commence à naître, ou qui commençait à naître, eh bien il fut providentiellement gardé d'une chute irréparable par l'Éternel. Il fut providentiellement gardé de la chute par l'Éternel. Et ce qui le préserva de la chute, ce qui le préserve de l'apostasie dans ce psaume, eh bien c'est son indéfectible attachement à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu, à la foi de ceux qui l'ont précédé dans l'histoire d'Israël. Puisqu'il écrit ceci. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirais la race de tes enfants. Mes amis, il est tellement attaché, malgré ses doutes, il y a une place pour le doute dans la vie chrétienne. Il est tellement attaché à la foi de ses pères, il est tellement attaché à Dieu, il est tellement attaché à la loi de Dieu, que celui-ci, par son esprit, le garde de tomber. Ainsi donc, malgré les doutes, de l'épreuve, le Seigneur ne permet pas qu'il se perde en apostasiant, en abandonnant la foi. Chers amis, rappelons-nous de ceci ce matin, et je l'ai dit il y a quelques instants. Tout chrétien, je dis bien tout chrétien, peut à l'instar d'Asaf, passer par un temps de défaillance spirituelle, passer par un temps de doute. Les épreuves se multiplient, on a ce sentiment les unes après les autres. L'incompréhension à l'égard de Dieu et de son plan sont là. Pourquoi ? Pourquoi un tunnel si long ? Pourquoi un ciel qui semble pour d'airain? Il peut arriver cela, et il arrive cela dans la vie chrétienne. Mais nous devons être assurés que dans ces moments-là, Dieu n'abandonne jamais, jamais ceux avec qui il a fait alliance. Il n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Absolument jamais. Il ramène toujours à lui la brebis égarée. Et même si on ne le comprend pas à ce moment-là, il nous porte dans ces moments d'épreuve. Il ramène toujours à lui la brebis égarée, au prix, bien entendu, d'une réelle repentance. Mes amis, passons maintenant, si vous le voulez bien, au moment charnière de ce psaume, qui est pour moi le plus extraordinaire et auquel je reviens régulièrement. Pour Asaf, ce n'est qu'au moment où il pénètre dans les sanctuaires de Dieu, verset 17. Ce n'est qu'au moment où il pénètre dans les sanctuaires de Dieu qu'il ne se scandalise plus de la façon avec laquelle Dieu s'occupe de lui et des impies. Il est écrit ceci, « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Voilà, mes amis, un moment charnière dans ces doutes par lesquels, et cette expérience terrible par laquelle est passé Asaph. Lorsqu'il s'interroge sur sa situation, lorsqu'il vient enfin dans la présence de Dieu, lorsqu'il se met à genoux, si ce n'est physiquement du moins, dans son cœur, devant Dieu, et qu'il examine toutes choses, lorsqu'il prend une certaine distance avec les souffrances qui sont les siennes, avec l'injustice des impies qui se repaissent allègrement de tout ce que le monde leur offre et qui semblent vivre bien heureux ici-bas, lorsqu'il voit les choses à la hauteur de Dieu, eh bien, tout change, tout se transforme dans ses pensées. Et si l'on peut dire ainsi, dans la première moitié de ce psaume, on voit les ténèbres, on voit le doute, on voit la crainte, on voit l'angoisse, on voit l'enfer. Et tout à coup, parce qu'il prend une certaine distance quant à ce qu'il comprenait et voyait, en rentrant dans la présence de Dieu, la lumière se fait. Il y a un renversement complet après ce verset 17 dans ce psaume et dans la vie d'Asaph, dans la conception de la vie qu'avait Asaph jusque-là. Ainsi, chers amis, en réponse à sa réflexion et surtout à son ardente prière, l'Éternel, tout à coup, quand Asaph rentre dans sa présence, l'Éternel apaise le trouble de son fidèle serviteur. Il lui ouvre les yeux. Il lui réserve tout à coup la destinée terrible qui attend les impies et surtout la gloire qu'il réserve aux siens. Et c'est ainsi que je vous invite à passer au deuxième point. La destinée des impies et celle des justes. Sous la conduite de Dieu, on dirait qu'il vient de le prendre par la main, qu'il lui parle doucement. Il sait que son serviteur est blessé, est meurtri, est découragé. Peut-être est-il tellement dans le trouble qu'il ne sait comment s'exprimer devant l'Éternel. Et l'Éternel, avec une grande douceur, prend son serviteur par la main et lui fait maintenant découvrir deux choses essentielles qu'il rapporte dans la fin de ce psaume. Il lui fait découvrir tout d'abord ce que sera, je l'ai dit il y a quelques instants, la destinée des impies, et ensuite celle plus glorieuse des enfants de Dieu. Mes amis, si on prend ce psaume, on a deux parties avec ce verset 17 au milieu qui fait une charnière. Dans la première partie, le raisonnement du chrétien éprouvé, et quelque part fou, il va le dire lui-même, à cause de son épreuve, qui ne voit que les circonstances horizontales, qui ne lève pas ses yeux vers l'Éternel. Le bonheur des impies, le malheur des justes. Et tout à coup, parce qu'il rentre dans la présence de l'Éternel, parce qu'il se confie en lui, parce que se confiant en Dieu et considérant sa parole et sa révélation, dans ce verset 17, tout à coup, les choses s'inversent. Ce sera la chute des impies et la gloire des justes. Alors regardons la destinée malheureuse des impies maintenant. Asaph découvre, sous la lumière du Saint-Esprit, la réelle précarité, et je dis bien précarité, du bonheur et de la réussite des méchants. Ils sont placés sur des voies glissantes, écrit-il ainsi. Ces mêmes voies qui leur ont permis certainement de monter très rapidement au firmament de la réussite et de la gloire humaine peuvent tout aussi rapidement et sur décision de Dieu se transformer en une pente glissante terrible qui va les précipiter et les faire disparaître dans la ruine et dans l'épouvante. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine, dit ainsi Asaph. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation? Mes amis, on pourrait dire ainsi que les méchants, selon ce qu'écrit Asaph ici, sont un peu comme la statue de Nebuchadnezzar. Ce sont des colosses qui en imposent, mais avec des pieds d'argile. Et au moindre coup de main de Dieu, voilà ces colosses qui sont terrassés. Et rappelez-vous, si vous me permettez cette petite digression, de cet empereur Nebuchadnezzar, de la rapidité avec laquelle Dieu le fit descendre au rang d'un animal à cause de son orgueil. Je cite Daniel 4, les versets 30 à 33. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Voilà l'histoire du plus grand empereur de cette époque-là, mes amis. Et pour continuer dans la démonstration de la fragilité de la gloire des impies devant Dieu, Asaph, pour revenir à notre psaume, fait ensuite référence au verset 20, au domaine des rêves. C'est très intéressant. Et il explique ainsi que de la même façon que nos rêves, les rêves que nous faisons la nuit, se dissipent instantanément lorsque nous nous réveillons, comme s'ils n'avaient jamais existé, d'ailleurs la plupart des rêves nous ne nous en souvenons pas, de la même façon, Dieu chassera les méchants de sa présence, tous ceux qui auront blasphémé, qui auront calomnié. Dieu les chassera de sa présence au jugement dernier. Ils n'auront finalement subsisté, selon Asaph, qu'aussi longtemps que Dieu patientait à leur égard. Un court laps de temps à l'échelle de l'éternité. Alors, chers frères et sœurs, devant de telles révélations, devant cette révélation qui nous montre la rapidité avec laquelle une vie peut ainsi changer et passer tout à coup de la gloire à la misère, eh bien, nous devons, chrétiens, nous garder d'être trop rapidement séduits, d'être trop rapidement émerveillés, d'être trop envieux, parce qu'il nous semble être de l'or, mais qu'il ne l'est pas. Et ceci est particulièrement vrai des méchants qui, en raison de leur orgueil, en raison de leur violence, finissent souvent ici-bas, pas toujours, mais assez souvent ici-bas, leur jour dans la honte et le désespoir, même si on ne le voit pas. Même si certains puissants semblent passer de vie à trépas sans avoir vécu dans la souffrance, nous devons savoir, et nous le savons souvent par leurs écrits ou par certaines choses qui nous sont rapportées, que beaucoup des grands d'aujourd'hui, que nous aurions rapidement tendance à envier, eh bien connaissent souvent une vie bien misérable, bien triste. Que beaucoup d'entre eux se sont coupés de toutes leurs relations et que finalement, en guise d'amitié, ils ne déclenchent que la haine sur leur passage. Beaucoup vivent une profonde solitude, se gavent de médicaments, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, avec tous les mélanges possibles et imaginables que l'on peut faire. La misère morale qui les habite les ronge tout au long de leur vie. On devrait plus avoir pitié d'eux que les envier. D'autre part, la révélation de cette justice divine que nous découvrons dans ce psaume, à la fin de ce psaume, justice qui s'appliquera un jour parfaitement pour chacun et selon laquelle Dieu ne fera exception de personne, eh bien console le psalmiste et devrait nous consoler. Et mes amis, il est une remarque d'Azaph que nous devons retenir ce matin, c'est que nous aigrir contre Dieu, remettre en question son amour et sa fidélité, à notre égard, quand nous sommes éprouvés, nous le sommes, eh bien nous ravale au rang des animaux, puisque c'est ce qu'il écrit. Je n'étais qu'une bête, j'étais stupide et sans connaissance, avec toi j'étais comme les bêtes, écrit Azaph. Pourquoi ? Parce que l'animal ne s'attache finalement qu'à sa propre personne. L'animal, de quoi a-t-il besoin ? De nourriture, d'un toit. Nous avons un chien, un petit chien, auquel tout le monde dans la maison prête des sentiments. Mais en fait, de quoi a-t-il besoin ? De nourriture, de caresses, d'un bon coussin, et ça suffit. Et voilà exactement ce que nous dit Azaph ce matin. Lorsque l'on s'aigrit contre Dieu, eh bien finalement on est comme l'animal qui ne s'occupe que de sa petite personne, de ses besoins matériels, de ses jouissances sensuelles, et c'est tout. Que Dieu nous garde de vivre et de raisonner ici-bas comme des animaux. Merci. Ne considérant exclusivement que la jouissance de nos corps, que notre bien matériel. Regardons maintenant, et j'arrive à la fin de cette prédication, la destinée heureuse des justes, et ce sont les versets 23 à 28. Azaph a donc compris, Dieu l'a pris par la main, la réelle précarité du bonheur des impies. Mais il découvre également, et encore une fois, c'est ce renversement total autour de ce verset 17, la valeur inestimable des privilèges que lui vaut sa foi en Dieu. Et à la fin de ce psaume, il en fait une description magnifique. Regardez ce qu'il écrit dans ces versets 23 à 24. « Dieu est avec lui, Dieu l'a saisi, Dieu le conduit par ses conseils et il le recevra dans la gloire. » C'est extraordinaire. Et mes amis, ces privilèges vous concerne, me concerne, si vous êtes en Jésus-Christ, si vous vous êtes repenti de vos péchés et confié en lui pour votre salut. Dieu est avec lui, Dieu est avec vous. Qu'il soit abandonné des hommes ou privé des affections les plus chères, Azaph et vous, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'il ne sera jamais seul. Pourquoi ? Parce que le Dieu qu'il aime sera toujours avec lui. Le Dieu qui a offert son Fils à la croix de Golgotha pour le sauver sera toujours avec lui. Il l'accompagnera partout où il ira, fût-ce même aux extrémités de la terre, il sera avec lui. Rappelez-vous de ces paroles de Christ, « Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et c'est une réalité dont nous devons nous souvenir, que nous devons faire nôtre. Dieu est avec lui. Dieu lui a saisi la main. Quelle sécurité, quelle assurance pour Asaph, quelle assurance pour l'enfant de Dieu qui peut être sur le point de glisser et de tomber dans l'apostasie, rejeter la foi. Dieu lui prend la main et le garde précieusement. Mes amis, Christ, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous le dit en Jean chapitre 10, il nous tient dans sa main, le Père nous tient dans sa main, le Fils aussi, personne ne peut nous en arracher. Il nous tient fermement. Il nous a saisis, nul ne pourra nous arracher de sa main, et il nous conduit comme un père conduit son enfant. Et il le guide de ses conseils. Chaque jour que Dieu donne à vivre à son enfant, pour toutes les décisions importantes qu'il doit prendre, eh bien l'enfant de Dieu sait qu'il n'est pas réduit aux lumières imparfaites de son jugement humain. Il a recours par contre à la sagesse, à la parfaite sagesse de Dieu qui est révélée dans sa parole. Et que Dieu donne aussi dans le cadre de l'Église. Par les frères et sœurs, par les serviteurs de Dieu. Dieu est avec lui, Dieu lui a saisi la main, Dieu le guide de ses saints conseils, et enfin, Dieu l'accueillera dans la gloire. À la fin de son pèlerinage terrestre, Asaph, à la fin de votre pèlerinage terrestre, ici-bas, à l'issue de son service, de votre service, loin, bien loin de mettre fin aux liens étroits qui l'unissent à Dieu, eh bien la mort sera au contraire le moment où, transporté comme Lazare par un ange dans la présence de Dieu, eh bien Dieu accueillera Asaph et Dieu vous accueillera en vous disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et mes amis, ce qu'il y a d'extraordinaire et ce que nous révèle Asaph ce matin, c'est que non seulement Dieu nous prend par la main, Dieu nous guide de ses conseils, il est tous les jours avec nous. Au moment de notre mort, il nous transportera par les anges dans sa présence, si nous sommes en Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, la relation avec notre Dieu, avec notre Seigneur, sera bien plus étroite, et pourtant elle l'est. On le voit ici-bas, elle sera bien plus étroite et bien plus forte que jamais. Et toutes les vexations, les humiliations que vous aurez vécues ici-bas, peut-être comme Asaph à la vue de la réussite des méchants, eh bien seront remplacées alors par la gloire éternelle et une intimité extraordinaire avec le Dieu qui vous fera rentrer dans sa présence. Et jour après jour, vous vous délecterez de sa personne et vous ne vous arrêterez jamais de vous réjouir en lui parce qu'il vous révélera jour après jour un peu de ce qui le concerne et de ce qui lui appartient. Ce Dieu éternel. On ne s'arrêtera pas de découvrir les richesses, la puissance et la gloire de notre Dieu. Tels sont vos privilèges, chers frères et sœurs. Si vous possédez Dieu en Jésus-Christ et si Dieu vous possède, vous avez tout ce que vous pouvez souhaiter ici dans ce monde et dans celui qui vous attend au moment où Dieu l'aura déterminé. Et le psalmiste le comprend, Asaph le comprend. Et il dit ces paroles extraordinaires, mais quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et il a, en disant ces paroles, il accomplit ainsi ce pourquoi il a été créé, se réjouir en Dieu, trouver en Dieu son bonheur éternel, dès ici-bas. Et dans cette émotion qui étreint Asaph à la fin de ce psaume, devant les grâces extraordinaires que Dieu a en réserve pour lui et qu'il vient de lui révéler, Asaph va même jusqu'à jeter un défi incroyable, surtout après avoir lu le début de ce psaume. Il jette un défi à la souffrance. Il dit ceci, « Son corps pourra être détruit par la maladie, son cœur pourra être rongé par les soucis. Quoi qu'il puisse lui arriver, Dieu sera toujours le rocher de son cœur et son partage. » Dieu, il en prête serment, restera toujours pour lui l'inébranlable rocher sur lequel il demeurera attaché et sur lequel il bravera les tempêtes jusqu'au jour où Dieu l'appellera à lui. Chers frères et sœurs, nous venons de le voir dans ce psaume, où ce psaume se termine par un renversement complet des sentiments de son auteur. Dans la première partie, il enviait la réussite des méchants, comme nous, si souvent, trop souvent peut-être. Dans la première partie, il se plaignait de ses souffrances. Dans la seconde, il dépeint le sort tragique des méchants et il bénit Dieu des nombreux privilèges qui sont les siens en tant qu'enfant bien-aimé. Et entre les deux se trouve cet extraordinaire moment charnière durant lequel Asaph est entré dans la présence de Dieu. À ce moment-là, je vous le rappelle, s'est produit une révolution extraordinaire. Au lieu de continuer de faire graviter Dieu et le monde autour de lui, parce que c'était ça son problème, problème d'égoïsme, de nombrilocentrisme, Asaph a au contraire compris que sa vie devait avoir Dieu et Dieu seul pour centre, pour but. Et c'est cela qui lui permet d'affirmer ensuite que pour lui, la présence de Dieu est devenue son souverain bien, sa joie profonde, le but de sa vie. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et j'aimerais vraiment terminer avec ces magnifiques paroles. Et nous interpeller ce matin, nous exhorter les uns et les autres de pénétrer chaque jour dans les parvis de Dieu. Que ce soit dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre cave, dans votre grenier, où que ce soit, de rentrer dans la présence de Dieu, dans les parvis de Dieu, pour faire de lui le centre réel de votre vie, de votre joie. Et de pouvoir vous écrier avec Asaph, « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, et ma part, et surtout, par-dessus tout, gravez-le, j'allais dire sur vos mains, non, mais écrivez-le, mettez-le sur un post-it, mettez-le en grand, où que vous voulez, et surtout pouvoir dire avec le psalmiste, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que telle soit la grâce de Dieu à notre égard, dans notre relation avec lui. Amen. »